Vous écoutez Politique numérique alias Pollen. Je suis Delphine Sabatier et mon invité est le député Renaissance de la 3e circonscription du Bas-Rhin, l'auteur de la loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet et puis également de cette loi qui vient d'être votée à l'unanimité, qui fait entrer dans le Code civil la notion de vie privée et de droit à l'image dans les obligations de protection des parents vis-à-vis de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Bonjour Bruno Studer.
Merci.
Alors ce droit à l'image des enfants, ça n'existait pas ?
Si, en fait, ça existe.
Oui.
Mais c'est surtout prévu dans le cas où les parents ont à protéger l'image de leur enfant par rapport à des personnalités extérieures, qu'elles soient morales ou physiques. Je pense par exemple à l'école. Tout le monde a rempli, pour ceux qui ont des enfants, tout le monde a rempli ce petit formulaire à la rentrée ou à l'occasion d'une sortie scolaire disant « j'autorise l'école à utiliser l'image de mon enfant ». Donc ça, c'est et les parents remplissent leur rôle de protecteur de l'image de leur enfant. Il m'a semblé d'abord qu'il était intéressant de rappeler à quel point c'était aujourd'hui fondamental de vraiment y faire attention. Et puis après, il y avait des situations dans lesquelles l'enfant était en fait mal protégé par ses parents parce que les parents eux-mêmes étaient d'accord pour user et abuser de l'image de leur enfant. Et c'est pour ça que j'ai travaillé...
Sur les réseaux sociaux en particulier.
Évidemment, parce que aujourd'hui, protéger la vie privée de son enfant, c'est quelque chose qui a fondamentalement évolué avec ce que ça a représenté comme enjeu pour nos propres parents, par exemple. Évidemment, ce n'était pas un enjeu de protéger notre vie privée, en tout cas pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve à l'âge de 13 ans en moyenne 1300 images d'un enfant sur Internet, où la moitié des images qu'on retrouve sur les forums pédopornographiques ont été publiées d'abord par les parents en toute bienveillance et en tout enthousiasme au départ, parce que finalement, ils voulaient partager la vie de leur enfant parce qu'ils en sont fiers, mais ce sont des photos qu'on retrouve après.
Ces chiffres sont des chiffres au niveau monde ?
Oui, ce sont c'est différentes études anglaises, américaines, qui sont des études robustes et qui effectivement sont là pour nous alerter. Et puis après, il y avait quand même des cas particuliers aussi au-delà de cela. Il y a des cas particuliers où des parents vraiment... Quand je dis usaient et abusaient de l'image de leur enfant, c'est je pense aux parents qui font des pranks à leur enfant, c'est-à-dire des canulars qui diffusent ça sur les réseaux sociaux.
Vous pensez aux influenceurs aussi, j'imagine.
Notamment aux influenceurs, ouais, ou les influenceurs qu'on retrouve par exemple parce qu'ils animent des vlogs familiaux, où on retrouve la vie privée de l'enfant quasiment non-stop. Tout ça au mépris d'abord du droit à la vie privée, au mépris du droit à l'oubli, au mépris du secret médical, bien souvent, et puis au mépris, à la fin, de la dignité de l'enfant. Et c'est sur l'abus de l'atteinte à la dignité de l'enfant, effectivement, que je fonde d'ailleurs l'article 4 de la loi sur le droit à l'image, qui prévoit que le juge civil aux affaires familiales puisse déléguer le droit à l'image de l'enfant à une autre personne qu'à ses propres parents.
Là, on est en train d'envisager la possibilité d'une déchéance de la parentalité si on ne gère pas correctement le droit à l'image et à la vie privée de notre enfant.
On peut dire ça comme cela. Ça ne va pas aussi loin que cela.
C'est très grave, oui.
Oui, c'est très grave, mais parce qu'il y a des contenus qui sont très graves.
Donnez-nous des exemples, parce que je pense que la majeure partie des parents qui diffusent des images de leurs enfants ne voient pas justement où est le mal.
Alors le mal, il est quand vous faites pleurer un enfant, que vous filmez ses pleurs et que vous les diffusez à des millions d'auditeurs ou de followers, comme on dit évidemment. Je pense à des pranks comme le célèbre prank caca Nutella, où vous faites croire à votre enfant que vous avez du caca sur la main, vous lui en mettez sur le visage, etc. Ça le fait paniquer, ça le fait vomir, ça le fait pleurer. Puis à la fin, vous lui révélez que c'était pas du caca, mais c'était du Nutella, et peut-être que ça le fera rire, peut-être. Mais en attendant, les pleurs
là,
de cet enfant...
on frôle pratiquement la maltraitance, finalement. On n'est même plus sur un droit à l'image.
Oui, sauf qu'évidemment, la maltraitance, il faut qu'elle soit véritablement caractérisée pour que le juge, aujourd'hui, puisse agir. Il faut notamment qu'il y ait un danger grave et imminent pour l'enfant. Et là, on voit bien qu'on est sur une zone un petit peu grise.
Oui.
Vous n'allez pas prononcer un retrait de l'exercice de l'autorité parentale, ou encore plus grave, le retrait de l'autorité parentale, sur le seul fondement d'un canular en ligne. Par contre, vous pouvez, dans un premier temps, alerter les parents sur ce qu'ils sont en train de faire, et puis leur dire que la prochaine fois, peut-être, on pourra leur retirer le droit à diffuser l'image de leur enfant, parce que derrière, c'est aussi de la viralité, donc c'est aussi un business, parce que très souvent, c'est un business derrière. Les parents, ils veulent des vues, parce que ça fait venir les annonceurs, qui, plus il y a de vues, touche un public important.
Et là effectivement, c'est plutôt, ça concerne plutôt les influenceurs qui en font un business, finalement, qui monétisent leur image avec celle de leurs enfants. Ça aurait pu être introduit dans la loi influenceur, tout simplement.
Oui, sauf que... Sur les influenceurs, il y a deux lois, en fait. Il y a mon premier texte que j'ai fait voter en 2020 sur les enfants influenceurs, qui visait à étendre le régime des enfants du spectacle, les enfants acteurs, les enfants chanteurs, aux enfants youtubeurs, sur la partie monétisation des contenus, qui visait à, en fait, à moderniser le droit du travail. Ensuite, vous avez la loi influenceur qui vise, là, celle de mes collègues Vogita et Delaporte, qui vise à lutter contre les dérives commerciales de certains influenceurs. Là, on était sur un autre champ. Et puis, en fait, c'est régulation après régulation. C'est vrai que après, quand vous êtes un député, vous ne pouvez pas faire un projet de loi de protection de l'enfance sur le numérique. Vous faites des propositions de loi. Et ces propositions de loi, elles sont nécessairement succinctes parce que sinon, vous n'avez pas la place pour les examiner. Et puis, d'ailleurs, moi, au départ, quand j'ai travaillé sur les enfants influenceurs, je ne connaissais pas les pranks, je ne connaissais pas les vlogs familiaux aussi parce qu'au fur et à mesure, j'ai acquis des nouvelles connaissances. J'en avais déjà, mais j'en ai acquis de nouvelles. Et donc, ça m'a poussé à réfléchir et ça a été compliqué d'écrire un texte. Et puis, donc en fait, il y a une logique à ces textes parce que la première régulation, c'est la régulation économique et sociale par le droit du travail. Puis ensuite, il y a un deuxième texte, la régulation technique, technologique avec le contrôle parental. Et puis là, on avait une régulation plus sociétale avec une modification du code civil. Et je pense que brique après brique, on est en train de construire un droit qui est dans le monde assez incomparable pour le moment en ce qui concerne la protection des enfants en ligne.
Alors, vous avez cité le chiffre de 1300 photos qui existent déjà sur un enfant quand il atteint l'âge de 13 ans. Ça m'interroge sur cet âge de 13 ans. Donc, on a vu que WhatsApp avait là tout récemment décidé qu'un enfant de 13 ans pouvait désormais télécharger son application. En France, on a choisi l'âge de 15 ans pour la majorité numérique. Quel est le bon âge, selon vous?
C'est une question qui à la fois appartient à chacune et chacun, et puis à la fois ça appartient au domaine de la loi. Donc la loi, elle essaye de mettre des âges avec des effets de seuil inévitables. Puis après, il y a ce que la loi fait réellement ou ce que la loi ne peut pas faire réellement.
Alors, en l'occurrence, personne ne vérifie, enfin en tout cas sur WhatsApp et les autres réseaux sociaux, on ne vérifie pas de manière stricte l'âge de la personne qui se connecte.
Non, parce que derrière, vous avez l'immense problème. Et quand je dis immense problème, je le pense vraiment, l'immense problème de la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux. Parce que si on avait trouvé la solution, la réponse simple à cette immense question de la vérification de l'âge, on aurait déjà... notamment régler la question de l'accès au porno pour les plus jeunes, pour les mineurs, là, en l'occurrence, sur les points et moins de 18 ans. Donc la vérification de l'âge, c'est le serpent de mer. Ça fait des années qu'on travaille dessus. On est en train d'espérer avoir une avancée fondamentale avec le projet de loi numérique, mais ça reste éminemment compliqué parce qu'il faut après expliquer pourquoi. Parce que moi, j'entends, et ça fait maintenant 7 ans que je suis député, ça fait 7 ans que je travaille sur ces sujets, puis souvent les gens me disent « Mais monsieur le député, au bout de 7 ans, vous n'avez pas encore trouvé la solution. » Alors j'ai dit « Mais moi, je suis comme vous. » Après, j'interroge tout le monde. Je dis « Mais quelles sont les solutions ?» Alors me dit « Il faut une carte bancaire. » Bon, bah, première question, est-ce que vous voulez que les gens donnent leurs coordonnées bancaires à des sites porno? Et alors, imaginez, si vous ne voulez déjà pas donner vos coordonnées bancaires, vous n'allez pas donner une photocopie de votre passeport, de votre carte d'identité à un site porno. Deuxième chose, concernant la carte bancaire, vous avez des gens qui ne sont pas bancarisés. Au nom de quoi vous allez leur interdire une liberté qui est une liberté d'information. Parce que le porno, ça n'est pas interdit.
Absolument, oui, ça, c'est important de le rappeler.
Plus vous mettez des contraintes, plus aussi vous allez vous retrouver en porte-à-faux avec des principes fondamentaux. Et moi, je suis pour, évidemment...
Ah, les solutions de trouver des tiers de confiance, en fait, oui. Qui permettraient de valider l'identité sans le faire à chaque fois directement sur les sites sur lesquels on se connecte.
Exactement, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus que le gouvernement travaille. Et c'est là-dessus qu'on espère, évidemment, avancer. En gros, vous donner la preuve de votre identité à un tiers de confiance... qui ensuite va certifier auprès du site que vous voulez visiter que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Mais tout ça, ça pose évidemment des questions en termes d'anonymat, en termes de sécurité des données personnelles. On voit très bien que on n'est pas à l'abri de catastrophes industrielles sur la fuite de données personnelles. Et donc, derrière, vous avez tout un tas de choses que vous voulez protéger aussi. Parce que quand vous allez, par exemple, consulter des sites pornographiques, vous allez révéler aussi une partie de votre identité ou de votre orientation sexuelle. Et ça, fondamentalement, c'est un droit au secret.
Alors, si je
vous
reviens...
Vous voyez, donc c'est, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, nous, on y travaille pendant des heures, je vous assure.
Si je reviens sur la question de l'âge. Donc, je vous interrogeais sur quel est le bon âge pour finalement autoriser un jeune à se connecter sur les réseaux sociaux. 13 ans, on a choisi 15 ans ici en France. Mais votre projet de loi, votre loi aujourd'hui, on peut dire d'ailleurs, hein, sur le droit à l'image, lui, il court jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire jusqu'à 18 ans, le parent est responsable de l'image de son enfant sur les réseaux sociaux.
Mais parce que jusqu'à 18 ans, l'enfant est sous la responsabilité, sous l'autorité de ses parents. Puis après,
il faut l'accord des deux parents.
Oui, il faut l'accord des deux parents lorsqu'on veut diffuser l'image de son enfant au-delà du cercle privé, amical, familial. Parce que ça n'est pas un geste anodin. De diffuser l'image de son enfant. Ensuite, c'est une image qui...
Ça peut créer des choses complexes hein, dans la famille, dans les familles séparées, divorcées.
Oui, alors sur les familles séparées, divorcées...
Ça peut devenir un combat.
Oui, alors, en fait, le juge avait déjà tranché dans les cas de familles divorcées ou de familles de parents séparés. Et le juge avait déjà dit, c'est un droit qui doit être exercé en commun. Donc j'ai pris la jurisprudence, c'est-à-dire ce qu'avait dit le juge, sur la base du droit qui existait, et je l'ai mis dans le droit positif, c'est-à-dire dans la loi telle qu'elle est rédigée. Maintenant, là où il y avait un problème, c'est quand les deux parents étaient d'accord. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'à la fin, c'est une loi, certains ont dit, et puis moi-même j'ai utilisé ce terme, on peut critiquer, mais c'est un peu pédagogique. Il faut aussi pousser la discussion, il faut pousser la prise de conscience. Et demain, j'espère effectivement que, de la même façon qu'on doit échanger entre parents sur les grandes décisions qui concernent son enfant quant à sa scolarité, l'associer à cet enfant aussi à cette décision, eh bien, il faut aussi qu'on discute lorsqu'on veut mettre une photo de lui sur un réseau social.
Qu'est-ce que vous disent les parents par rapport à ce texte ? Vous en avez rencontré quelques-uns, sur le sujet.
Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Sur ce sujet-là, il y a évidemment des gens qui étaient un peu inquiets en disant « Mais alors ça veut dire que j'ai plus le droit d'échanger des photos, de poster des photos avec mes petits-enfants, par exemple. » J'ai eu beaucoup de grands-parents qui étaient inquiets. En fait, tant que vous restez dans le cadre familial et amical, je n'ai pas envie de dire « Vous faites n'importe quoi », mais vous faites... vous êtes comme dans un album de photos à la maison, etc. Il faut toujours faire un peu attention quand même, parce qu'Internet, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais on peut encore publier des photos de ces enfants, même de bébés qui ne peuvent pas donner leur autorisation.
Ouais, dans ces cas-là, comment l'esprit de la loi, c'est si l'enfant n'est pas capable de donner ce qu'on appelle son consentement, mais le consentement c'est encore un mot qui juridiquement a une portée tout autre. Mais
c'est un consentement à 5 ans, je ne sais pas ce que ça vaut.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, vous devez associer votre enfant, et votre enfant assez petit, il est capable de vous dire déjà s'il aime cette photo ou s'il ne l'aime pas. Donc s'il ne l'aime pas déjà, je pense que le premier bon réflexe c'est de ne pas la publier. Voilà, et éventuellement de la supprimer. Ce que me demandent parfois mes enfants à propos des photos que je prends d'eux. Donc, voilà. Et puis quand l'enfant est trop petit, je pense que, de fait, abstenons-nous. On peut envoyer la photo de son enfant à ses grands-parents, à ses oncles et tantes, mais pourquoi l'envoyer à des inconnus qui vont peut-être la détourner? Je pense qu'il faut...
La moitié, vous l'avez dit, je le répète quand même, qui se retrouve... entre les mains de réseaux pédophiles.
Oui.
Et puis, il y a cette question du droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'un enfant, il devient adulte.
Bien sûr.
Et il doit vivre avec tout ce passé, finalement.
Puis même avant de devenir adulte, il va être enfant dans la cour d'école, dans la cour du collège.
Ouais.
Et que diront les parents si des contenus produits par eux-mêmes serviront de base à faire du harcèlement, par exemple, ou serviront plus tard de base à de l'usurpation d'identité ou de la violation du secret médical. Il y a par exemple un tiers des enfants qui existent sur Internet avant d'exister dans la vraie vie, notamment parce que les gens partagent une image d'échographie, parce qu'ils sont heureux d'attendre un enfant, ils ont envie de partager ce bonheur avec le reste du monde. Je le comprends. Mais une échographie, c'est fondamentalement du secret médical. Et moi, je ne sais pas dire ce que dans 10 ans, une intelligence artificielle va pouvoir extrapoler à partir d'une échographie d'aujourd'hui. Et souvent, on dit que les hommes et les femmes politiques sont en retard, d'ailleurs. Moi, j'essaie juste de leur dire, peut-être que je suis en retard, mais en tout cas, je vois aussi ce que potentiellement la technologie va nous permettre de faire dans quelques années. Et donc, faisons attention.
Faisons attention à notre vie privée et à celle de nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez des bébémoji ? Vous savez, c'est cette nouvelle tendance de publier justement des photos de ses enfants avec un emoji à la place du visage ou les yeux floutés, par exemple.
Alors, c'est déjà mieux parce que vous réduisez le nombre de données que vous donnez, parce qu'en fait, ce sont des données, tout ça. Mais le droit à l'image, ce n'est pas juste le visage. Le droit à l'image, c'est la couleur préférée, c'est le nom du doudou, c'est... le décor de la chambre, c'est plein d'informations qui vont faire que, malheureusement, le lit de ceux qui vont chercher à voler l'identité, et la banque Barclays a d'ailleurs fourni une étude assez détaillée qui dit que d'ici à 2030, la moitié des usurpations d'identité bancaire concerneront des mineurs, parce qu'il y a beaucoup d'informations à propos d'eux qui circulent. Donc, c'est déjà mieux. Ça prouve qu'il y a une prise de conscience. Moi-même, j'ai pu le faire sur une ou deux photos que j'ai peut-être pu partager J'ai fait très très rarement, je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé, voilà. C'est donc mieux, mais je pense que voilà, s'abstenir est encore, encore mieux.
C'est encore plus intéressant. Bon, alors cette loi, elle a été, je disais, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, promulguée au Journal officiel en février dernier. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 4 mars. Donc, c'est allé très très vite, ce vote à l'unanimité. C'est appliqué là, dès aujourd'hui ?
Ah oui. Oui, il n'y a pas de...
Est-ce qu'il y a déjà des premiers cas qui se sont présentés ?
Alors moi, je n'ai pas connaissance de cas, par exemple, de décisions judiciaires comme une délégation d'autorité parentale pour l'exercice du droit à l'image des enfants. Donc il faudra, comme toute loi, voir un petit peu comment ça va évoluer. Après, quand vous faites une proposition de loi, évidemment que d'abord, vous avez envie de changer la loi, mais vous avez aussi envie de créer du débat.
Oui.
Et je crois que sur ce sujet-là, le débat a pris. D'ailleurs, puisque vous m'invitez, c'est que ça vous a intéressé. Et j'ai été invité par des journalistes de France sur tous les supports médiatiques. Pour la première fois, d'ailleurs, j'ai fait sur des shows YouTube, ce qui ne m'était jamais arrivé. À l'étranger, j'ai été invité à parler de mes travaux dans différents pays. Donc je pense qu'il y a aussi un objectif. Quand vous êtes parlementaire, vous avez envie que les sujets qui vous sont chers prennent dans l'opinion publique. Et je pense que ça fait partie de la prise de conscience. Et j'ai choisi aussi des textes un peu emblématiques et très médiatiques comme les enfants youtubeurs, le contrôle parental, le droit à l'image, parce que ça me permet à chaque fois de mettre un sujet en plus dans le débat pour dire attention avec le numérique. Mmh. On a plein de choses merveilleuses, mais rendons-nous compte aussi de certains aspects auxquels il faut faire attention.
Alors, contrôle parental, on y vient, Bruno Studer. Donc, une loi oblige les fabricants d'appareils connectés, que ce soit des smartphones, des tablettes, peu importe, à installer un dispositif de contrôle parental et de proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l'appareil. Donc, on est dans la même ligne, finalement, de protection des enfants sur Internet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes particulièrement intéressé à ces sujets, Bruno Studer ?
Deux choses, je pense. La première, c'est la profession que j'ai exercée avant. J'étais enseignant. Et donc, j'ai vu à quel point Internet changeait la vie des enfants et de nos jeunes. Voilà. Moi, j'arrivais en 2017 à l'Assemblée nationale. J'avais peut-être plus conscience que d'autres de ce que ça voulait dire, les théories du complot, les fausses informations, etc. Moi, j'avais vécu Charlie Hebdo dans ma salle de classe. Hein. J'avais dû démonter les théories du complot, etc. Donc, puis après, j'avais vu aussi quel était l'impact du porno sur la construction psychologique de certains de mes élèves. Ça fait éminemment partie de mon parcours. Peut-être aussi parce qu'on a vu arriver en 2017 des députés qui avaient des parcours un peu nouveaux par rapport à ce qu'on avait auparavant, des députés qui avaient été parents de jeunes enfants, ce qui est mon cas, oui. Évidemment. Et donc, c'est certainement un mix de tout ça qui fait que je me suis particulièrement intéressé à ces sujets.
Alors, je voulais quand même vous proposer qu'on écoute vos amis à l'Assemblée nationale, qu'on est allé interroger à propos de ce contrôle parental. C'est un micro tendu par Cécile Dard.
Véronique Besse, députée de la Vendée, bonjour. Cécile Dard, journaliste du podcast Politique Numérique. J'ai une question. Est-ce que le contrôle parental, pour vous, est la bonne solution pour la protection des mineurs en ligne aujourd'hui ?
Le contrôle parental ne va pas assez loin. Il faut faire beaucoup plus pour protéger les mineurs. Des réseaux sociaux notamment et de tout ce qui se passe à la télévision qui n'est pas toujours beau à voir. Mais il faut peut-être rendre un peu plus dur le contrôle parental et puis surtout sensibiliser les parents pour qu'ils soient peut-être plus aux aguets de ce que les enfants regardent. Et puis ça mérite vraiment une réflexion, peut-être interdire à certains horaires l'accès aux réseaux sociaux des enfants parce que je pense que c'est bien qu'ils fassent aussi autre chose et qu'ils ne soient pas simplement omnubilés par les réseaux.
Bertrand Bouix, député Horizon du Calvados.
Je pense qu'en fait, augmenter les contrôles et savoir ce que fait son enfant, c'est essentiel. C'est d'abord une question d'éducation. Bien sûr qu'on ne peut pas régler tout par la voie réglementaire et par le biais de lois, mais je pense que c'est un minimum, au moins, d'avoir ce signal à l'égard des parents. Je pense plutôt qu'il faut agir en amont. Responsabiliser les parents, responsabiliser l'ensemble des adultes sur ce que peut représenter en fait les médias en ligne, l'information en ligne, sur tout ce qui peut y circuler. Je pense que plus on ira aussi sur ces actions de pédagogie, plus on apprendra à nos enfants à se servir de ces outils, plus on sera en capacité, une fois adulte, a aussi de mieux les utiliser. Moi, j'ai deux enfants hein, qui ont 14 ans et 17 ans. Je suis continuellement derrière eux à surveiller le temps qu'ils passent sur leur téléphone, à leur expliquer les risques qu'ils prennent en allant sur certains sites. C'est comme l'éducation à la route. Vous pouvez passer le code, mais à un moment donné, il y a des pratiques à avoir. Il y a des parents qui ont un rôle. Tous ces interdits, il faut aussi qu'ils soient vécus dans le milieu familial. Et ça, c'est important, mais parfois, des familles ne sont pas toujours en capacité à l'exprimer. Donc la loi ou le règlement peuvent aider, mais l'école aussi et tous les leaders d'opinion doivent aussi être en capacité de se positionner sur ces sujets.
Frédéric Mounier, député des Républicains de Corrèze.
Le contrôle parental, je pense qu'il est temps de demander l'avis aux parents. Et peut-être que ce genre de situation peut concerner les parents quand il peut y avoir des dérives au niveau de leurs enfants. Donc c'est un des moyens peut-être pour éviter des dérives importantes sur des mineurs.
Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados.
Le contrôle parental, ce n'est pas la seule protection. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des plateformes qui encouragent des dérives. Je pense par exemple à TikTok, avec les matchs sur TikTok. Aujourd'hui, il y a des mineurs qui sont confrontés à ça et qui, finalement, outrepassent très facilement le contrôle parental. Donc, il y a la nécessité aussi que les plateformes elles se saisissent effectivement du sujet pour pouvoir, finalement, faire en sorte que les pratiques problématiques n'existent plus. Et donc, moi, je dis à TikTok, prenez vos responsabilités, arrêtez avec les matchs qui génèrent plus de dérives qu'ils ne génèrent de bienfaits.
Alors, Bruno Studer, est-ce qu'on ne va pas assez loin avec ce contrôle parental ?
On va déjà plus loin que quasiment tous les pays démocratiques,
ouais.
En ayant rendu la préinstallation obligatoire sur l'ensemble des appareils qui permettent de consulter des contenus.
Vous pensez qu'on pourrait aller plus loin bientôt parce qu'il y a une consultation autour des écrans et des enfants? Est-ce que l'idée qui est mise là dans ce micro tendu à Véronique Besse de dire peut-être qu'on devrait interdire l'accès à certaines heures, l'accès de connexion, ça vous semble intéressant?
Et est-ce qu'on a interdit l'accès à la télé à certaines heures? Vous voulez rentrer dans les pratiques familiales à ce point-là? Non, enfin, je pense qu'il faut... Enfin, toute question mérite d'être posée, mais après, il faut aussi rester raisonnable. Et on a eu des débats lunaires à l'Assemblée nationale. On a entendu dire que les écrans, c'est du poison. Il faut interdire... Enfin, je sais pas, moi, à ce moment-là, quand vous faites un FaceTime avec vos grands-parents qui sont au bout de la planète, par exemple, c'est un poison pour vos enfants.
Ah non, mais je suis 100% d'accord. Enfin, tout donc, le sujet, c'est ce qu'on met à l'intérieur de l'écran.
Exactement. Et donc, ce qu'on met à l'intérieur de l'écran, effectivement, pour moi... Alors, évidemment, j'ai réfléchi et pour le coup, il y a des leaders d'opinion puissants qui m'ont suivi, puisque le président de la République, quelques heures avant son intervention sur le contrôle parental, où il annonce qu'il y a une loi qui va être votée, j'ai eu la chance de le sensibiliser très fortement à ce sujet. Et puis d'autres l'avaient fait à l'époque, Cédric O, Adrien Taquet. Enfin, c'était un travail d'équipe. Donc Emmanuel Macron lui-même, il a encouragé ce dispositif, qui n'est pas un dispositif miraculeux. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la seule solution. Mais c'est une solution incontournable, je pense, y compris pour faire tout ce qu'appellent justement à faire mes collègues, et notamment la sensibilisation en amont, en aval, etc.
Bertrand Bouygues, il dit c'est comme l'éducation à la route. C'est un peu ça l'idée, c'est sensibiliser, donner des clés sur comment se protéger, en fait.
Oui, parce que moi, je dis souvent, mes parents ne m'ont jamais dit « ne donne pas de photos de toi à un inconnu sur Internet
».
Par contre, ils m'ont dit « tu ne montes pas dans la voiture d'un inconnu à la sortie de l'école ». Voilà, ça fait partie des règles. Et puis après, il y a d'autres règles beaucoup, auxquelles on regarde à droite, à gauche. Enfin, le parallèle est assez juste, même s'il n'est jamais totalement complet. Mais il faut accompagner son enfant. Et le contrôle parental, au départ, c'est de l'interdit. Pour les plus petits, il y a certaines choses qu'il faut leur empêcher de voir. Et puis après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est l'éducation. Donc vous allez donner plus de liberté, moins de liberté si jamais ça n'a pas marché d'avoir donné plus de liberté, vous revenez dessus. Puis de toute façon, à un moment donné, l'enfant il sera capable de le pirater donc, ou d'aller avec l'appareil. L'appareil qui est à la maison, celui de l'adulte, il peut aller voir des choses qui ne sont normalement pas pour lui. Donc il ne faut pas être naïf. Voilà, il faut l'accompagner. Et le contrôle parental, c'est en fait, j'avais appelé ça aussi un outil de dialogue familial.
Oui. Mais alors, justement, parce que faut demander l'avis des parents. J'ai entendu ça aussi à l'Assemblée nationale. Vous êtes allé leur demander ?
Oui, alors les parents plébiscitent assez le fait que sur l'appareil, ce soit simple, sans surcoût, simple, facile à activer et à désactiver et à paramétrer, en fait. Parce qu'effectivement, on peut aller sur plus ou moins de sévérité du contrôle. On peut aller sur plus de contrôle, moins de contrôle. Tout ça, il faut que ce soit simple à faire pour les parents. Pour que justement, les parents qui sont un peu éloignés de toutes les technologies ne se disent pas « Ouh là là, c'est compliqué, bon, je ferai ça plus tard. » Parce que moi, ça me rappelle un parent.
Alors, le problème, c'est que les parents aussi donnent leur propre appareil à leurs enfants, très souvent.
Ouais,
et alors là, pas de contrôle parental.
Sauf si les parents se sont emparés de ce que les fournisseurs d'accès ont développé aussi, parce que la loi les y contraignait,
oui.
Mais sans standards minimaux. Aujourd'hui, ces standards, ils existent. C'est la loi, c'est la même loi que pour les appareils, mais aussi, ça concerne aussi les fournisseurs d'accès. Donc, vous pouvez paramétrer très facilement aujourd'hui votre box pour éteindre le Wi-Fi entre telle heure et telle heure, etc. Puis après, il y a des choses quand même que la loi ne peut pas faire. Hein. La loi, elle ne peut pas dire à chaque parent, ne donnez pas de téléphone portable la nuit dans sa chambre à votre enfant, sinon votre enfant va faire partie de ces 50% d'ados
si
qui se lèvent la nuit.
La journée, notre téléphone, il n'est pas sous contrôle parental, oui. Notre téléphone de parent, d'adulte.
Alors après, il y a des choses qui se font aussi. Parce
qu'il y a tous ces premiers âges où l'enfant découvre finalement ses appareils électroniques à travers ceux de leurs parents. Ils n'en ont pas encore.
Bien sûr. Et donc, dans ces cas-là, il faut aussi un peu de prudence. Et la loi a aussi encouragé les plateformes, les moteurs de recherche à développer des outils qui sont installés par défaut ou non, qui sont très facilement désactivables. C'est très facile aujourd'hui de faire une recherche sur un grand moteur de recherche très connu, américain. Vous avez une recherche dite safe et puis une recherche dite normale, voilà, enfin, ou libre de toute contrainte. Ça vous prend deux secondes, il faut juste y être éveillé. Et voilà, pareil, la loi sur le contrôle parental, ça permet d'éveiller un petit peu les gens, parce que qu'est-ce qu'elle prévoit aussi cette loi ? Elle dit que quand vous achetez un appareil, dans votre parcours utilisateur pour le mettre en route, on vous pose la question. Est-ce que vous voulez ou pas ? Alors moi, j'ai envie de dire, il faut que cette question, intuitivement, ça se transforme en est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment, vraiment mettre un outil sans contrôle parental dans les mains de votre enfant ?
Inverser la proposition.
Exactement. Ouais. Et on ne peut pas le formuler comme ça. Donc on dit, est-ce que vous voulez ou pas activer le contrôle parental qui est préinstallé ?
Et alors, ils en sont où, les fabricants là, d'appareils ?
Eh bien, ils en sont...
Parce qu'ils sont censés être prêts pour juillet.
Oui. Bah, écoutez, moi, ils sont plutôt... D'abord, ils étaient pour certains déjà assez conformes à la loi. La loi, elle ne vient pas, comme d'ailleurs très très souvent, créer quelque chose ex nihilo. Ça repose aussi sur des choses. Il y avait déjà des outils qui existaient. Maintenant, ils sont standardisés. Ils obéissent à certaines normes. Donc, les fabricants, ils sont prêts. Et puis, c'est aussi une loi pour les nouveaux arrivants qui arriveraient demain sur le marché. On ne sait pas. Peut-être demain, y aura-t-il des nouveaux constructeurs. Eh bien, ces nouveaux constructeurs, ils ne rentreront pas sur le marché français s'ils n'ont pas un outil.
Et ça, c'est la NFR donc, ouais. qui s'engage à le vérifier.
Absolument. Et puis,
au moment de l'autorisation de mise sur le marché du produit.
Oui, et puis après, il pourrait y avoir des contrôles. Et puis, si ces contrôles...
Avec quelles sanctions ?
Ah bah, vous retirez le produit du marché. C'est la sanction, tout simplement. C'est là, quand même la sanction...
ultime.
Mais c'est très simple. Il y a une norme. Qui d'ailleurs ne va pas bénéficier qu'à la France, parce qu'en fait, ce sont des appareils qui sont prévus pour le monde entier. Donc, il y a très fortes chances que cette même proposition d'activer un contrôle parental préinstallé bénéficie à des parents qui ne sont pas que franco-français.
Vous avez cité le contrôle parental qui est déjà disponible à travers nos connexions Internet, qui doit être mis à disposition par les fournisseurs d'accès. Avec quelle efficacité ? Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Est-ce que vous êtes confiant là sur ce nouveau dispositif ? Vous pensez que vraiment les parents vont jouer le jeu ?
En tout cas, on leur donne un outil en plus pour les aider à être parents. On n'a pas de solution miracle.
Si, il y a une autre solution, c'est aussi s'attaquer aux plateformes. D'ailleurs, c'est dit, mais aujourd'hui, ces plateformes numériques, on les régule, on a des textes au niveau européen, mais on ne va pas jusqu'au bout peut-être de la démarche. Quand on cite les matchs TikTok comme tout à l'heure, on ne va pas interdire les matchs TikTok. Pourtant, c'est une pratique problématique.
Oui.
Le scroll infini, est-ce qu'on doit interdire le scroll infini par exemple ?
Je vois mal comment la loi...
C'est une pratique addictive, clairement.
Ouais. Et donc, il faut... moi, j'ai été interrogé par la commission qu'a voulu le président de la République. J'ai dit, par exemple, sur ce phénomène assez, qu'on est en train d'identifier du scrolling infini, j'ai dit, il faut qu'on demande à un moment donné des travaux scientifiques qui nous montrent ça, qui nous montrent que c'est dangereux, addictif, etc. Vous savez, c'est comme sur la pornographie aujourd'hui. Quand j'ai notamment présenté l'outil de contrôle parental comme étant un outil qui permettait de restreindre la rencontre accidentelle avec le porno. Parce qu'une fois que l'enfant veut en trouver du porno, de toute façon, il va en trouver. On va se dire les choses aussi. Mais il y a déjà des gens qui m'ont dit « Oui, mais de toute façon, ce n'est pas démontré que le porno est mauvais pour la santé. Pourquoi est-ce que vous voulez donc interdire quelque chose avec la loi alors qu'il n'y a pas de consensus scientifique, etc. ?» Il faut progresser sur ces sujets-là. Sur les plateformes, on est en train quand même de mettre des nouvelles règles européennes. Mais il faut aussi se dire les choses. Vous avez là des plateformes qui sont des plateformes américaines, dans le meilleur des cas. Chinoise dans
le
moins bon cas.
Le moins bon cas, c'est le chinois, non?
Et qui, par ailleurs, suppriment des... Ils font des choses, ils suppriment des comptes qui appartiennent à des mineurs qui n'ont pas l'âge, etc. Mais après, évidemment qu'il y a du ménage à faire. Après, évidemment aussi que ça pose une question fondamentale, parce que ce sont des plateformes privées, ce sont des entreprises privées, de droit américain ou de droit chinois, ou d'autres pays. Rien ne vous contraint à les utiliser. Ça reste des entreprises qui ont leur propre politique, qui respectent les lois de leur pays. Alors, est-ce qu'il faut les interdire, tout simplement? Ça s'appelle la censure.
Exactement, oui.
Et donc, je pense que ni vous ni moi, on a envie de censurer. Par ailleurs, un outil qui a des aspects quand même extraordinaires. Notre travail, ce n'est pas d'interdire, c'est de faire en sorte qu'on garde le meilleur et puis d'essayer d'éviter le pire. Vous savez, voilà, je pense qu'il faut savoir raison garder.
Alors, vous avez évoqué soutien d'Emmanuel Macron sur ce projet. Aujourd'hui, donc, il a engagé une concertation autour de la consultation des écrans, de la place des écrans dans les familles. Est-ce que vous savez ce qui peut en ressortir? Puisqu'on attend, alors ça devait arriver là, dans quelques jours, finalement, ce sera pour début mai, qu'on aura un rapport plus complet.
Alors, je ne sais pas ce qui va en sortir. Moi, je sais ce que j'aurais proposé.
Parce qu'on entend tellement de choses que on s'inquiète un peu, je dois vous dire, quand on entend parler de rationnement, par exemple.
Non, je pense que...
Jusqu'où peut être intrusif dans les familles, finalement.
Bien sûr, évidemment. Et puis, même dans la vie privée de chacune et de chacun.
Ouais.
Moi, je pense que... moi, je sais ce que j'ai proposé.
Alors, dites-nous.
Alors... Sur la question, je pense qu'il faut partir des vrais problèmes qui sont établis, etc. Il y a un vrai problème qui s'appelle le harcèlement.
Mm-hmm.
C'est un phénomène massif. Si on regarde les chiffres, un élève sur 10 aurait été confronté à du harcèlement au sein de l'école, etc. Ou du cyberharcèlement dans la prolongation avec des groupes scolaires, etc. Bon, c'est un phénomène donc massif, 1 sur 10. Et il y a d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale a commencé un recensement, etc. Et donc c'est une très bonne chose. Je prends un exemple très concret. Imaginons, j'ai un de mes enfants qui publie un contenu problématique à l'égard d'un autre enfant. Voilà. Ou plusieurs contenus problématiques à l'égard d'un... Ça peut arriver à tout le monde. On peut tous faire des bêtises, y compris mes enfants. Voilà. Et d'ailleurs, l'enfant harceleur peut être lui-même harcelé par d'autres. Enfin, bon, c'est un phénomène énormément complexe. La personne qui est visée par le contenu problématique fait un signalement au 3018. Géré par e-enfance, etc., ouais. qui a un signaleur de confiance auprès de plateformes comme Snapchat, TikTok, et demande à ce que ce contenu soit supprimé, parce qu'il est problématique. Ce contenu est supprimé. Moi, je suis pas au courant. Alors que peut-être, il a utilisé un abonnement Internet que moi, je paye, que ce soit la téléphonie ou de la box. Je suis pas au courant. Comment est-ce que je peux intervenir pour lui expliquer que c'est pas bien ce qu'il a fait? Il faut que j'attende d'avoir un courrier du juge ou une convocation du juge pour au nom du code pénal, avec la loi qu'on a votée sur le harcèlement scolaire à l'encontre de mon enfant, soit à mon égard sur la base de ma responsabilité civile de parent. Donc moi, je dis que si on a du contenu qui est supprimé suite à un signalement par un tiers de confiance, il faut au moins que cette matière première, cette donnée, elle serve aussi aux parents. Et il faut qu'on trouve un moyen pour avertir les parents que l'abonnement Internet, l'abonnement téléphonie que vous payez, il a servi à faire ce contenu.
Mais là, vous êtes sur le contenu. Vous n'êtes pas sur la consultation des écrans, sur l'addiction aux écrans, qui est quand même le sujet de bataille là en ce moment, visiblement.
Mais vous ne réglerez pas l'addiction aux écrans, à mon avis, par un coup de baguette magique. Moi, je suis convaincu que l'addiction aux écrans, c'est une prise de conscience de ce qui est en train de se jouer sur les écrans. Et qu'après...
Ça, c'est entendu comme discours aujourd'hui ?
Au moment,
parce que justement, enfin, tous les textes qu'on voit s'intéressent à ça, ce dont on a parlé, hein, la protection de la vie privée, le droit à l'image de l'enfant, le contrôle parental, la réglementation autour des plateformes. Mais on a besoin d'aller plus loin.
Oui, parce que par exemple, si vous rendez compte que votre enfant a commis par exemple tel ou tel contenu, vous allez devoir avoir une discussion avec lui. Mmh. C'est inévitable. Enfin, je sais pas. Alors, évidemment, il y a des parents qui sont défaillants dans leur auto, mais la plupart des parents, la plupart des gens sont aujourd'hui tout à fait sensibles et sensés et envie de bien faire.
Donc, vous proposez quoi très concrètement ?
Moi, je propose que sur le modèle de ce qu'on avait fait sur l'Adopi, par exemple, vous téléchargez quelque chose d'illégal, vous recevez un courrier. Recevez un courrier. Bah, je pense qu'aujourd'hui, à un moment où le courrier est rare, quand même.
Ouais.
Non, mais je veux dire, sincèrement. Mmh. Il y a longtemps, votre courrier, il y avait une tonne de publicité, il passait inaperçu avec les factures. Aujourd'hui, le courrier est rare. Vous recevez demain un courrier estampillé, par exemple, Arcom, à qui on pourrait donner cette responsabilité parce qu'on a fusionné l'Adopi et la CSA. Vous disant...
votre connexion Internet a été utilisée pour. C'est ça, ouais.
Moi, j'ai pas de garantie. Après, il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut une réponse graduée, comme sur le modèle de l'Adopi, etc. Pourquoi pas ? Moi, j'ai dit juste, réfléchissons, parce que tout ça, ça va nous permettre de nous poser des questions qui font que, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'ai dit, sincèrement, à tous les gens qui nous écoutent, il n'y a aucune solution miracle sur les écrans. Enfin, je veux dire, on peut avoir des addictions multiples et variées à plein de sujets. Il y a aussi un écran, c'est aussi une ouverture sur le monde. Donc, je n'ai pas envie qu'on diabolise ça. Enfin, moi, j'ai appris à faire un faux plafond en regardant YouTube, quoi. Vous voyez ? Puis mes enfants, ils ont appris à faire la pâtisserie en regardant des YouTubeurs. Et je trouve ça très bien. Je veux juste que... on fasse attention aux choses un peu moins sympas.
Merci beaucoup, Bruno Studer, d'avoir été mon invité dans Pollen. Et merci à Luc Daniel qui était à la réalisation aujourd'hui. On sera de retour dès la semaine prochaine pour de nouveaux débats politiques et numériques. Et si vous voulez rater aucun épisode, eh bien, enregistrez Pollen dans vos favoris, dans votre liste de podcasts. Vous pouvez aussi d'ailleurs souscrire à la newsletter, tout ça c'est gratuit. À très bientôt.
Merci.